Quand les plantes ont faim, eh ben, elles ouvrent la bouche. C'est à peu près ce que vous allez nous dire ce matin, Andrea Zerbin.
À peu près, oui, c'est vrai. C'est que les plantes ont des stratégies fabuleuses et même en 2016, moi c'est ça que j'adore, on continue à découvrir certains mécanismes du monde végétal qui étaient totalement inconnus jusqu'alors. Donc oui, pour boire ou pour se nourrir en sels minéraux, la plante utilise ses racines, ça on le savait déjà.
Un peu, voilà. Quand même.
Mais ce qu'on vient de découvrir, en tout cas une équipe de biologistes de l'Université de Lausanne vient de le faire, c'est que la perméabilité des racines de la plante s'adapte à ses besoins nutritionnels et c'est donc ce que vous venez de dire de manière assez schématique, Silvio, c'est-à-dire que la racine devient plus ou moins perméable si la plante a faim, donc elle ouvre plus ou moins grand la bouche. Cette découverte a été publiée en fin de semaine dernière dans la revue scientifique Cell.
Et on va aller un peu plus loin dans ce sujet en recevant ce matin la première auteure de cette étude, Marie Barberon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biologiste, postdoc au département de biologie moléculaire dans le groupe de Nico Gellner, de biologie moléculaire végétale en fait, dans le groupe de Nico Gellner, donc à l'Université de Lausanne. Là, Adrien vient de faire un résumé assez bref de votre recherche. Il est correct ?
Oui, ben ça résume plutôt bien. Je me permettrai peut-être pas de comparer les racines des plantes à une bouche.
Non, oui, ça.
Mais par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on a observé que la perméabilité des racines s'adaptait aux besoins nutritionnels des plantes. Et plus précisément, en fait, c'est une couche à l'intérieur des racines, une couche cellulaire qu'on appelle l'endoderme, dont sa perméabilité est modifiée. Et cet endoderme, il va ainsi jouer le rôle de barrière entre l'eau et les sels minéraux qui sont présents dans le sol et l'intérieur des racines. Avec comme conséquence ensuite que ces éléments pourront être redistribués dans l'intégralité de la plante.
Donc cet endoderme joue un rôle de filtre, hein, c'est ça ? Il va filtrer ce qui arrive et ce filtre n'est pas inerte, ça veut dire qu'il va être plus ou moins filtrant, c'est correct ?
Ouais, c'est exactement ça. Donc une des particularités des cellules de l'endoderme, c'est qu'elles vont former de la subérine. Cette subérine, c'est une matière cireuse assez proche du liège qu'on utilise pour faire des bouchons de bouteilles. Et donc, cette subérine, elle va entourer les cellules de l'endoderme. Et une cellule subérisée ou non sera plus ou moins perméable à l'eau et aux sels.
Alors, subérisée, donc il y a ce filtre, c'est l'endoderme, et puis il y a la subérine, c'est cette espèce de cire qui se met par-dessus.
Voilà, c'est une cire qui se met autour des cellules.
Okay.
Et du coup, ça les rend plus ou moins étanches. Et nous, ce qu'on a vu, c'est qu'en fonction des besoins nutritifs des plantes, les cellules de l'endoderme vont plus ou moins avoir cette cire autour d'elle.
Et ça se passe à quelle échelle de temps ? Parce que dans les plantes...
Donc, c'est ça qui est fascinant, c'est que ça peut prendre quelques heures pour avoir plus de subérine. Et en seulement une journée, on est capable de dégrader cette subérine. Donc les plantes peuvent vraiment s'adapter en temps court. Et en plus, c'est réversible. Donc,
Et alors une autre question que je me pose, vous avez dit que la plante pouvait s'adapter à ses besoins, c'est-à-dire elle a besoin de sels minéraux, elle a besoin d'eau, elle va donc ouvrir, enfin rendre ses racines étanches. Est-ce qu'elle peut aussi s'adapter aux conditions autour d'elle, c'est-à-dire au sol ?
Oui, c'est ça. C'est en fait c'est une intégration. La plante regarde, enfin, elle a ses propres besoins nutritionnels et il y a la composition du sol et en fonction de l'un et de l'autre, elle va adapter ses capacités d'acquisition des sels minéraux dans le sol. Donc les plantes, elles sont fixées dans le sol hein, avec leurs racines, elles peuvent pas se déplacer pour aller acquérir leurs aliments ailleurs. Donc elles doivent mettre en place de nombreuses stratégies d'adaptation.
Et comment elle fait ça ? Juste
Donc pour le cas de la subérine, on a vu que il y a des réponses moléculaires qui se mettent en place et qui passent par voie hormonale. Donc il y a des hormones végétales, hein, pas seulement chez les animaux, mais chez les plantes aussi il y a des hormones. Et c'est une balance entre deux hormones qui permet de produire ou pas de la subérine en fonction des besoins nutritionnels.
C'est assez fascinant. Comment est-ce que vous avez découvert ça ? Expliquez-nous un peu vos expériences.
Ok, donc la plupart de nos travaux sont basés sur de la microscopie et l'utilisation de colorants pour cette subérine. Donc on peut visualiser la subérine dans les racines des plantes. Et pour ça, l'avantage, c'est qu'on travaille sur une plante modèle qui est Arabidopsis thaliana, qu'on appelle en langage commun
l'arabette
des dames. Voilà.
Un joli nom. Très utilisé.
Très joli nom. Donc l'arabette, donc c'est vraiment un modèle pour les approches de biologie moléculaire ou de biologie cellulaire. Et dans notre cas, l'intérêt, c'est que la racine est très simple et elle est pratiquement transparente. Donc vous pouvez facilement faire de la microscopie pour regarder des tissus qui seraient à l'intérieur des racines. Donc vous pouvez visualiser l'endoderme à l'intérieur des racines sur des plantes qui sont en vie et que vous pouvez travailler en conditions naturelles.
Donc vous avez fait quoi ? Vous avez donné soif à une plante, par exemple ?
Donc on a modifié la composition du milieu nutritif qu'on leur donnait quand on les arrosait. Et on a ensuite observé les conséquences sur la subérine dans les racines de ces plantes. Et on a pu voir que si on modifiait la composition de cette solution nutritive, on avait des fortes différences en termes de production de subérine. Et derrière, on a vu que c'était réversible.
Et tout ce phénomène était donc parfaitement inconnu. On connaissait quand même l'existence de la subérine et de cet endoderme.
Donc la subérine et l'endoderme sont connus depuis bien longtemps. Il y avait quelques travaux chez le riz qui montraient qu'en condition de sécheresse ou de stress salin, vous aviez une plus grande production de subérine.
Donc ça veut dire que le riz, il y a du sel dans son eau.
Il va avoir plus de subérine, et du coup, ça va limiter l'entrée du sel dans la plante.
D'accord.
Et en cas de sécheresse aussi, vous avez plus de subérine, ce qui permet de garder l'eau que vous auriez pu avoir et ne pas la perdre.
Là, vous avez travaillé sur l'arabette des dames, donc cette fameuse arabette des dames. Mais on peut généraliser ça à toutes les plantes, vous pensez? Vous le savez?
Alors, donc, comme je disais, chez le riz, il y a des évidences que ça marche aussi. Vraisemblablement, toutes les plantes terrestres, la plupart des plantes terrestres, ont un endoderme et une subérine. Donc on peut imaginer facilement que ces mécanismes d'adaptation seront préservés. Maintenant, il y a certains groupes de recherche qui travaillent sur des plantes qu'on appelle d'intérêt agronomique, des plantes cultivées comme la tomate, le maïs, le riz, qui commencent à s'intéresser à l'endoderme. Et ce sera vraiment intéressant de voir, avec leurs travaux, si ces mécanismes d'adaptation sont conservés. Et s'il y a des différences.
Bastien ?
Je suis assez surpris parce qu'on parle de nutrition de la plante. Ça me paraît quelque chose de tellement général et élémentaire. Comment ça se fait que ça a été découvert, ce mécanisme a été découvert que maintenant ? C'est tard, non ?
Donc on sait déjà depuis longtemps que les plantes s'adaptent dans leur mécanisme d'acquisition des nutriments depuis le sol. Ici, c'est une particularité, c'est qu'on regarde une couche cellulaire à l'intérieur des racines. Donc il faut avoir une technologie pour être capable de vraiment visualiser ça. Comme je vous disais, notre plante nous permet de faire de la microscopie sur plantes vivantes dans leur environnement naturel. Et ça, ça a été ce qui nous a permis de faire cette avancée.
Mmh. Donc pour ce qui est des plantes cultivées, vous l'avez dit, on sait qu'elles ont de la subérine et on commence à s'y intéresser. Mais mettons, alors là on est dans la recherche fondamentale, mais on peut imaginer qu'il y a des applications en agronomie de cette découverte.
Alors nous, donc, ce qu'on voit, c'est que cette subérine est modifiée en fonction des besoins de la plante, mais que ça a une directe conséquence sur la nutrition de ces plantes, leur croissance, leur développement, leur production de graines, et du coup aussi vraisemblablement la qualité nutritionnelle pour nous ensuite. Donc ça sera intéressant quand on regardera ce qui se passe chez des plantes cultivées, voir comment ces réponses sont conservées ou pas, et notamment s'il y a une variabilité dans la réponse chez différentes variétés d'une même espèce. Et dans ce cas-là, ça pourrait être un caractère pour l'amélioration des plantes en agronomie, en effet, oui.
On pourrait sélectionner des
plantes
qui auraient une meilleure capacité
exactement,
de gérer
on pourrait faire une chose comme ça. Donc l'idéal serait d'avoir, plusieurs variétés d'une même espèce qui répondent différemment. Et dans ce cas-là, c'est très facile de faire des croisements et de la sélection. Ça prend du temps, mais on peut ensuite, comme ça, introduire ce caractère chez des plantes d'intérêt.
Ouais, justement, si on fait un peu de science-fiction, dans le sens propre du terme, on peut imaginer modifier dans une plante le taux de production de subérine, par exemple.
Alors, nous, au laboratoire, dans un objectif de recherche fondamentale, on arrive à le faire. On modifie le fait que les plantes soient plus ou moins capables de dégrader cette subérine.
Génétiquement, là.
Oui, génétiquement.
D'accord.
Et du coup, c'est comme ça qu'on a pu voir que ça a un direct impact sur la nutrition de ces plantes et leur croissance.
Alors en recherche, on sait que quand on répond à une question, là en l'occurrence la question était comment fonctionne cet endoderme et comment fonctionne l'étanchéité d'une racine, ça, en général on répond à une question et on en pose 10 autres. Donc quelle est la suite de cette recherche que vous allez faire?
Donc vous avez bien compris les enjeux de la recherche, c'est plus on trouve de réponses, plus on a de questions.
C'est ça, en même temps c'est bien, ça fait du boulot pour les chercheurs.
Alors moi personnellement, ce qui me fascine, c'est cette capacité des plantes à s'adapter à leur environnement. Elles sont capables de détecter des variations dans la composition du sol et de mettre en place des réponses très vite. Donc ce que j'aimerais faire, c'est comprendre les signaux moléculaires qui sont mis en place depuis le sol jusqu'aux réponses de la plante et en utilisant cette réponse de la subérine comme modèle.
Donc les signaux moléculaires, ça veut dire...
C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand il y a une variation dans le sol? On rajoute plus ou moins de sel ou plus ou moins de fer? Qu'est-ce que la plante détecte comme changement qui met directement en place ses réponses?
Et comment elle le détecte surtout?
C'est ça. Et ça, on l'observe dans plein de cas, mais on a encore peu d'idées sur quels sont les mécanismes pour détecter.
Il y a des pistes?
C'est les hormones notamment. Il y a le calcium qui est très important. On pense qu'il y a des variations au niveau de l'électricité dans les plantes. Ça, c'est fascinant.
Ah
elles
bon
détectent des signaux parce que les ions produisent de l'électricité et c'est des variations qui ensuite entraînent
On ne pourra plus manger une salade bientôt. C'est ça le problème.
Mais
du coup, là, ça devient très technique.
Merci beaucoup, Marie Barberon. Je rappelle que vous êtes biologiste post-doctorante au département de biologie moléculaire végétale, dont le groupe du professeur Nico Gellner à l'université de Lausanne. Vous avez répondu à l'invitation d'Adrien Zerbillier. Je vous souhaite une très très bonne journée.
Merci à vous.
CQFD sur la première.